Aujourd'hui, c'est vrai, c'est le dimanche où on se souvient des personnes qui sont persécutées. Et vous allez voir qu'il y a un lien avec ma prédication. Et finalement, c'est assez fortuit parce que je vais vous redonner une prédication que j'ai donnée il y a un mois. Nous avons commencé une étude suivie de l'Épître de Jacques. J'étais content d'entendre ce magnifique verset « Tout don parfait, tout cadeau nous vient du Père des Lumières ». Oui, c'est dans Jacques. Et puis, à la persécution pour certains, mais peut-être au milieu de vous, il y a des personnes qui sont éprouvées. Et ma prière, c'est que la parole que nous allons partager puisse vous aider, même si vous êtes dans l'épreuve, à goûter cette joie du Seigneur dont on a parlé, dont on a chanté tout à l'heure. Quelques mots d'introduction, il y a un petit côté pédagogique sur l'épître de Jacques. Jacques qui se présente au verset 1 comme serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ est en fait le propre frère de Jésus. Il ne faisait pas partie des disciples, mais l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 15 que ce Jacques a rencontrer le Christ ressuscité, a eu droit à une révélation spéciale. Et ensuite, on verra dans le livre des Actes que Jacques devient un responsable important de l'église de Jérusalem. D'ailleurs, la tradition fait de lui un évêque. On le nomme Jacques le Juste dans la tradition en raison de son beau témoignage. Il sera lapidé. Vraiment dans le thème de la persécution. Il sera lapidé en 61 de notre ère, sous l'instigation du grand prêtre Anne, qui profite d'un certain flottement au niveau du gouvernement romain. Quelques mots des... Il faut que je trouve le... savoir où il faut viser. Ah, pardon. Voilà, super. Quelques mots des destinataires de la lettre. Vous savez, c'est intéressant quand on étudie la parole de Dieu de se dire, qui écrit et puis à qui il écrit et que vivaient les personnes, les premiers lecteurs, si vous voulez, de cette épître. Jacques les salue par une formule assez bizarre, salue les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu. L'auteur s'adresse aux Juifs qui se sont convertis à Jésus-Christ après la Pentecôte. On n'est pas très loin de la Pentecôte, une quarantaine d'années. Et les Actes nous disent qu'il y a eu une grande persécution. Acte 8, rappelez-vous, le diacre Étienne sera lapidé. Et on lit dans Acte 8, « Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. » Donc Jacques, il va chercher à rejoindre ces chrétiens qu'il connaissait, mais qui sont maintenant jetés sur les routes de l'Empire. Et son but, c'est le but de tout pasteur, c'est que ces chrétiens tiennent bon et ne lâchent pas la main du Seigneur dans ces temps difficiles. Et aussi qu'il se comporte en vrai disciple. Vous savez, Jérusalem, c'était encore un peu un lieu protégé. Il y avait le temple, l'église était encore au milieu du village. Mais en étant comme ça, lancé en exil dans l'Empire romain, ces gens-là vont devoir se positionner comme des disciples de Jésus, sans avoir toujours autour des frères et des sœurs, une église qui les soutient. Alors on va entrer maintenant de plein pied dans le texte et on va trouver, Jacques commence et termine son épître par le sujet de l'épreuve. Excusez, j'ai sauté ce... Alors, je prends le texte. De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Et puis on saute à la fin de l'épître, chapitre 5, quelques extraits. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur, nous disant « Heureux ceux qui persévèrent ». Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Seigneur, je te prie que ta parole puisse pénétrer dans les cœurs et Seigneur, relever les cœurs qui sont affligés ce matin et donner aussi des fondements pour chacun pour que le jour où l'épreuve frappe à notre porte, nous soyons solides en toi. Amen. Je ne vais pas enfoncer des portes ouvertes en vous rappelant que l'épreuve fait encore partie de nos vies. Et pour ces juifs convertis qui ont dû fuir, non seulement ils perdaient leur maison, ils perdaient, imaginez s'ils étaient agriculteurs, ils perdaient leur terre, mais ils vont devenir des personnes qu'on exploite. Quoi de plus facile que d'exploiter un apatride, quelqu'un qui est étranger? Jacques va dire, ce ne sont pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, ce ne sont pas eux qui outragent le beau nom que vous portez. Voilà un petit peu un texte qui montre l'épreuve que vivaient ces chrétiens qui avaient dû fuir Jérusalem. Oui, l'épreuve nous colle à la peau. Et peut-être que l'un ou l'une d'entre vous la vit aujourd'hui, ou peut-être vous la vivez dans vos familles. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept théologique du déjà et du pas encore. Ça vous parle, le déjà et le pas encore? Pour certains. Nous avons déjà reçu par Jésus-Christ les bénédictions spirituelles. Relisez le début des Éphésiens. On est déjà sauvés, on est déjà ressuscités spirituellement. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Mais Jésus n'est pas encore revenu et le salut n'est pas encore achevé, pas encore accompli. Et vous voyez, on est dans une tension entre le déjà de la première venue de Jésus-Christ et le pas encore de son retour. D'ailleurs, Jacques, vous avez vu dans le texte, il parle à deux reprises du retour de Christ. Et c'est le retour de Christ qui mettra un terme au mal et à son cortège de souffrance. Donc, on est en tension. On est en tension. La souffrance fait encore partie de nos vies. Il y a moins de 2 ans, nous avons perdu un fils de 30 ans dans des circonstances dramatiques. Et en juin de cette année, je recevais le diagnostic d'une maladie potentiellement grave. Donc, quand je vous parle d'épreuves, mes amis, je vous parle d'un sujet que je connais. À 12 ans, je perdais ma maman. Alors que faire? Que faire quand nous traversons cette vallée de l'ombre de la mort dont David parle au psaume 23? Moi, je le connais par cœur, ce psaume 23. Et je le répète le matin, en début de ma méditation. Jacques, mes amis, nous ouvre une magnifique fenêtre d'espérance quand nous traversons les grandes eaux. Jacques nous invite, nous demande, nous ordonne même, c'est un impératif, à poser un regard décalé sur la souffrance. Réécoutons cet impératif. Un impératif surprenant, voire choquant. Écoutez, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Est-ce que vous croyez à l'inspiration des Écritures ? Oui ? Eh bien, si vous y croyez, vous devez aussi croire à cette parole. Cette parole qui est, dans un certain sens, insensée. Jacques nous dit que de l'épreuve peut jaillir une puissance de vie, une consolation, de la lumière. Comment pouvons-nous répondre à cet appel qui ne contient aucune nuance et qui paraît si exagéré? Il n'est pas dit « considérez les épreuves pas trop dures », toutes les épreuves. Et le texte littéralement nous dit « on n'y entre pas par choix dans les épreuves, on y tombe », littéralement « on tombe dans l'épreuve ». Et comble de non-sens, on devrait en faire un sujet de joie complète. Est-ce qu'on n'a pas là un texte biblique redoutable? Redoutable. Alors je vous le dis d'emblée, il ne s'agit pas d'être masochiste, c'est-à-dire jouir de la souffrance, doloriste, c'est-à-dire croire que par notre souffrance on gagne notre salut, ou bien stoïque à la manière des Grecs, c'est un peu le détachement aussi des bouddhistes, pour ne pas souffrir il faudrait se détacher, ou bien imbécile. Si demain matin vous manquez une marche dans l'escalier et que vous fracturez un genou, il ne s'agit pas de dire « Alléluia, merci Seigneur ». Non, non, soyons pas stupides. La souffrance, je vous le rappelle, découle de l'activité de Satan qui a entraîné le péché du monde. Il ne s'agit ni de la justifier, ni de la relativiser, et encore moins de la rechercher, bien sûr. Alors comment est-ce qu'on va quand même entrer dans cet appel de l'apôtre à changer de regard sur l'épreuve? Pour comprendre Jacques, il nous faut déjà commencer par saisir, capter, quelle était sa vision de la vie chrétienne. Vous voyez sur les photos, deux conceptions possibles de la vie chrétienne. Club Med et plage, chaise longue, petit cocktail. Et puis un gars qui est vraiment dans le dur, ce qui fait un Ironman, en tout cas de ses courses d'endurance. Et là, on voit qu'il commence à tirer la langue. Eh bien oui, Jacques, comme bien des auteurs du Nouveau Testament, pour lui, la foi est à ses yeux une course d'endurance, un marathon, un Ironman, et parfois même un combat. Relisez Paul. Paul parlera souvent du combat de la foi. Et les amis, dans un combat, on reçoit des coups. Et oui, Jacques peut observer dans sa vie et dans la vie des personnes à qui il s'adresse que devenir disciple de Jésus-Christ peut coûter gros. Peut coûter gros. Par conséquent, si la vie chrétienne est si exigeante, eh bien, elle va demander une préparation, un entraînement. Vous croyez que le gars qui court, il s'est présenté sans entraînement au départ de la course? La vie chrétienne étant un combat, une course, elle demande un entraînement pour que nous gagnions en résistance, en résilience. Et c'est intéressant, Jacques pour parler de la souffrance, il ne va pas utiliser un mot qui signifierait catastrophe, calamité, déboire, mais il va utiliser le mot grec perasmos. Et ce terme, mes amis, ne contient pas en lui-même un sens négatif. Ça, c'est étonnant. Le mot épreuve, le terme grec qu'on traduit par épreuve, ne contient pas un sens négatif. Par contre, en français, épreuve a un côté négatif. Peut-être pour le comprendre, là on a le fameux viaduc de Millau en France qui subit un test de charge avec tous ces gros poids lourds jaunes. Le terme perasmos renvoie à l'idée de tester. C'est un terme neutre qui signifie connaître par l'expérience. En hébreu 11, 29, c'est la même racine qui va être traduite par le mot tentative pour parler des Égyptiens qui ont tenté de traverser la mer Rouge en poursuivant les Hébreux. Ils ont tenté, mais sans succès. Et puis un peu plus loin, ce même terme grec, perasmos, va être traduit par tentation. Perasmos en grec, c'est à la fois l'épreuve test et la tentation. Que nous dit Jacques finalement? Eh bien, il nous dit ceci. Quand vous devez affronter une difficulté, mais là c'est important, en restant en lien avec le Seigneur, sachez qu'elle participe à vous rendre plus résistant. Et si vous gagnez en résistance, rien ne pourra vous mettre à terre. Vous comprenez la logique? L'épreuve participe à notre formation. C'est pour cela qu'on peut la regarder différemment. C'est à partir de cette logique qu'il ose même nous dire, nous demander de nous réjouir. Je suis un passionné de voile et c'est dans ce registre que je vais puiser une image, vous verrez, qui est très parlante. Et je terminerai par là. Dans le monde de la voile, la mini transat qui se déroule actuellement, c'est la traversée en solitaire de l'Atlantique sur des bateaux de 6,50 m. L'adjectif mini ne se rapporte pas à la distance, mais à la taille de ces bateaux. 6,50 m, des coquilles de noix sur l'Atlantique. Pour un jeune skipper, c'est souvent des jeunes, quoi qu'il y a, il y a un peu toutes les générations, mais il y a quand même une majorité de jeunes. Pour un jeune skipper, participer et finir une mini transat, c'est souvent la porte d'entrée pour les grandes courses à la voile telles que le Vendée Globe. C'est un peu le Graal pour un jeune navigateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette course, on se presse au portillon pour y participer. Alors, il faut faire du tri. Le candidat doit accumuler des milles nautiques dans deux épreuves qualificatives incontournables. Si vous n'avez pas fait ces en kilomètres, ça fait plus de 4600 kilomètres, c'est beaucoup à la voile, hein, presque 5000 kilomètres. Si vous ne pouvez pas attester que vous avez fait ces presque 5000 kilomètres en solitaire, votre dossier n'est pas retenu. Et puis, je suis allé regarder sur le site de la Mini Transat, et voilà ce que j'ai lu. Sur les 70 partants de la Mini Transat en 1999, seuls 37 sont arrivés à bon port, les autres ayant abandonné et 16 balises de détresse ont été déclenchées. La classe Mini a alors décidé l'année suivante d'instaurer un processus de qualification, notamment hors course, pour valider la possibilité de participer à la mini-transat. Et cette année, 84 skippers ont réussi leur père Asmos et ont pris part pour cette 23e édition. Mais 43 ont été recalés. Intéressant. Nos vies ressemblent à une traversée, une longue traversée de l'Atlantique. Alors il y aura des calmes plats, mais il y aura aussi des tempêtes. Et la société dans laquelle on vit rajoute aussi des difficultés. Nous sommes dans une société où d'être disciple de Jésus-Christ et de vouloir aussi vivre une éthique, comme l'Évangile nous y appelle, nous met au porte-à-faux. Jugez plutôt. Dans un cours de citoyenneté, un professeur a organisé une votation sur le mariage pour tous. C'était à la mode il y a quelques semaines. Une jeune chrétienne de la passerelle, une ado, a osé se positionner. Elle était seule contre tous. Et au final, elle a été mise de côté par toute la classe. Plus personne voulait être son amie. Comment, à l'avenir, serons-nous capables de rester fidèles à celui qui nous a aimés et sauvés si nous sommes désarçonnés à la première difficulté? Comment allons-nous rester des disciples si, quand l'épreuve survient, nous posons les plaques? Et ça arrive, ça arrive. Frères et sœurs de Reconvilier, accueillez résolument cette espérance inouïe de la parole de Dieu. De toute épreuve, et je peux vous le dire, de toute épreuve, traversée en gardant la main dans la main de notre bon berger, peut jaillir la vie, peut jaillir la lumière, peut jaillir de la croissance. Dans l'épreuve, très souvent, on se rapproche du Seigneur, on découvre davantage qui il est, combien il nous aime. Et la lumière grandit. Et cela est possible, mes amis, parce que nous avons un Dieu dont Jacques dit, au chapitre 5, verset 11, « Le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. » Amen. Et je désire encore prier. Notre Dieu, quel privilège de pouvoir être relié à toi, de te connaître comme ce bon berger qui nous guide, qui restaure notre âme, comme le dit David, et qui est là, à nos côtés, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Quel privilège, Seigneur, par rapport à tous les hommes et les femmes de ce monde qui ne te connaissent pas et qui ont les mêmes épreuves que nous. Et toi, tu nous dis que ces épreuves, elles peuvent participer à nous transformer, à nous rendre plus solides, plus aimants. Alors Seigneur, oui, nous désirons vivre en paix, nous désirons vivre dans le bonheur, mais nous voulons apprendre, Seigneur, quand l'épreuve nous touche, à regarder à toi avec espérance, en te disant, recycle ce qui me fait mal aujourd'hui, et qu'un jour, de la lumière sorte de cette épreuve. Et c'est possible, parce que tu es le Dieu de la résurrection, de la mort de Jésus. Tu as fait sortir notre vie éternelle. Béni sois-tu. Amen.